Vous écoutez La Nuit Américaine.
Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Nuit Américaine, le podcast cinéma qui vous plonge au cœur de l'univers du 7e art. Actu, bruit de couloir, film de patrimoine, coup de cœur, c'est parti pour l'épisode 2 de la saison 3. Messieurs, bonjour. Julien, Loris,
coucou.
Mathieu et Thomas. Hello. Comment allez-vous, messieurs ?
Ça va.
Ça va bien.
Ça va, vous êtes prêts pour ce deuxième épisode ? Alors déjà, un petit retour sur le premier. Comment vous avez perçu un petit peu le premier épisode, l'enregistrement ? Ça vous convient, cette nouvelle mouture ?
Bon, c'était loin, on l'a enregistré quand
Ouais, c'était il y a
15 jours.
Ouais, 15 jours.
Mais, voilà, c'est bon ?
Non, c'était
ça
bien.
Ça vous convient ? On continue là-dessus. Allez, messieurs, passons au film qui nous intéresse aujourd'hui, le film Ferrari de Michael Mann avec à l'affiche Adam Driver, sorti sur Prime Video le 8 mars dernier. Un driver.
Bah écoute, bah, quoi de mieux.
Il n'y a pas de hasard.
Pour conduire une Ferrari. Voilà. Donc, alors, qui veut commencer ? On passe pour on fait un tour de table sur ce film-là et on met la petite note sur le baromètre de La Nuit Américaine. Loris.
Ouais, je peux commencer. Alors, moi, la note, ce serait 5,5. Bah déjà, je peux peut-être pitcher très rapidement le film. Donc, c'est un film sur Ferrari, hein, comme le nom l'indique. Ça se passe en 57, qui est une année charnière en fait pour Ferrari, donc Enzo Ferrari. Pourquoi année charnière ? Parce que la marque est un peu en train de péricliter. C'est difficile de garder la finance à flot. Donc lui, il essaye d'avoir des voitures performantes pour gagner des courses et se refaire un peu sur le plan financier, mais en même temps sur le plan familial, personnel, avec sa femme, c'est compliqué. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a notamment eu le décès de leur fils Dino quelques années auparavant, qui a forcément chamboulé le couple. Lui qui a une relation extra-conjugale, sa femme n'est pas au courant, il a un autre gamin avec cette femme, etc. Donc voilà, donc il est extrêmement...
biopic, quoi.
Voilà, il est extrêmement étiré dans tous les sens. Tu vois que c'est un mec qui est très... C'est un peu un connard en fait. Hein, quand tu vois comme... malgré sa vie, tu vois que le gars, il a envie, il met la réussite en avant au détriment des pilotes, au détriment de sa famille. Enfin voilà, il veut. Tu vois que c'est un mec qui a énormément d'ambition. Et donc, pour parler rapidement mon avis sur le film. Déjà, biopic, je suis pas méga chaud. Ensuite, pour aller sur l'automobile, encore moins. Donc, j'étais vraiment... allez, on y va. Sachant que j'avais quand même beaucoup aimé, c'était Rush.
Ouais.
De Howard et puis c'était Ford contre Ferrari je crois de
Jamie Mangold.
Mangold. Mmh.
Qui est produit par Michael Mann.
Voilà, donc je me suis dit finalement ouvre tes chakras, ce film peut voilà, mais en fait je me suis vite rendu compte que il y a plein de trucs qui m'ont saoulé, notamment le rythme. J'ai mis énormément de temps à rentrer dans le film, une bonne heure je pense.
Il dure 2 heures aussi, hein, celui-là.
Il dure 2 heures, mais j'ai vraiment je pense mis une heure à m'intéresser aux enjeux, à l'intrigue, à rentrer dedans, à me dire ah tiens, à m'intéresser aux personnages, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de successions de personnages, t'as pas trop le temps de t'attacher, etc. J'ai trouvé Penélope Cruz très très bonne dans son rôle. Et lui aussi je trouve pas trop mal, malgré encore ce truc qui me horripile, c'est les accents. Les ricains qui prennent des accents italiens.
Et je me suis dit exactement la même chose.
Mais
pourquoi tu fais ça ?
Ouais, mais
pourquoi
parce que c'est cette volonté des Américains de reprendre des histoires d'Européens et de les mettre à leur sauce. Mais c'est juste que quand
je suis d'accord, mais alors où tu le joues en italien et tu parles en italien, ou tu le fais en anglais, tu parles en anglais, mais ne prends pas un accent anglais, surtout qu'il le perd de temps en temps.
Donc ça m'a franchement un peu sorti du film, ça m'a un peu gavé. Je me suis dit encore, bon, soit. J'ai trouvé que les scènes de course étaient vachement bien filmées. Par contre, les scènes de CGI en crash étaient désastreuses. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah non, faut pas montrer ça. À la limite, tu le suggères ou tu fais quelque chose d'un peu plus malin. Et ça m'a un peu déçu de Michael Mann, parce que lui, quand même, c'est quand même un super réalisateur. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus construit en termes de mise en scène aussi, avec un peu plus d'idées peut-être. Moi, c'est surtout au niveau du rythme qui m'a déçu, parce que ces films m'ont jamais... Voilà, je me suis jamais ennuyé en regardant un Michael Mann. Là, pour le coup, je me suis un peu, par moments, un peu fait chier. Sinon, après, les thématiques abordées du film, elles sont effectivement sincères, mais des fois un peu vaines, quand tu te dis, bon, tout ça, c'est de l'automobile, je veux dire... calmez-vous les gars, je sais que vous avez envie de faire vos voitures les plus puissantes, les plus machins, les trucs, mais au bout d'un moment t'es là, bon bah les gars concentrez-vous sur votre famille, sur d'autres enjeux peut-être. Du moins ça m'a fait au moins réfléchir sur peut-être le côté vain des fois de certains sports qui sont mis en avant sur qu'est-ce que ça représente de pousser les choses au maximum, à quoi bon finalement avoir une voiture qui roule le plus vite possible. Tu vois, enfin, c'est des choses qui peut-être que le film veut mettre en avant aussi, parce que tu vois, il parle donc des mille et milliards, tu vois, cette course de. Qui se passe, où il y a le fameux drame à la fin de la course. Mm. Je ne sais pas si on peut en parler ou si c'est. C'est spoil, mais voilà.
Après, c'est une histoire vraie. Donc, c'est...
Exactement.
C'est connu. Quoi.
C'est aussi de se dire voilà, jusqu'où va le film, jusqu'où on peut pousser la mécanique et l'ambition, jusqu'où va l'ambition, notamment de ce Enzo Ferrari.
Julien, vas-y.
Écoute, ouais, une note. Je pense que effectivement, on est à la moyenne. On est à la moyenne parce que l'interprétation est bonne. Comme dit, il y a plein de trucs. J'aime bien les acteurs. Il y a des scènes qui sont bien jouées. Moi, le truc aussi, ça m'a saoulé le côté. Je prends un accent alors qu'en fait, je le joue dans une autre langue. En fait, j'aurais aimé voir ce film peut-être avec des acteurs italiens que je connais pas. Et je l'aurais vu en VO en italien, ça aurait peut-être été très classe. Sinon, effectivement, sans l'avoir analysé plus que ça, mais en le regardant, il y a quelques scènes où la mise en scène m'a plu, et c'est pas forcément de l'automobile. Il y a des petits passages, un petit travelling sur lui qui passe derrière la foule. Tu vois, il est en deuxième plan et il se passe un truc. Il y a des choses intéressantes et que j'ai bien aimées. La même chose moi aussi. Les films qui ont le cul entre deux chaises, c'est-à-dire un peu biopic, un peu automobile, un peu machin, mais de l'automobile, il n'y en a pas assez pour que ce soit assez intéressant. On te plonge un petit peu rapidement dans le truc. C'est-à-dire que pour seul résumé de la vie d'Enzo Ferrari, on voit juste une vieille image en noir et blanc de lui qui gagne quelques courses ou qui a l'air de gagner la course parce qu'il sourit, et boum, tu te retrouves, Ferrari est dans la merde, et il faut gagner absolument cette course, machin. J'ai assez mal, j'ai mal ressenti les enjeux, et même que ce soit dans le couple et que ce soit pour les courses. Voilà, pour les deux, j'étais pas vraiment pris, tu vois, par quelque chose, un enjeu vraiment important. Et le seul truc qui aurait pu être vraiment impressionnant, au moment où ça se passe, je me prends pleine gueule, effectivement, le CGI qui est dégueulasse. Et je me dis, wow, ouais, d'accord. Là, la scène est folle, mais ce qui se passe, c'est terrible. Et pourtant, le soin qu'on y a mis est vraiment pas terrible. Donc voilà.
Ça vaut un 5.
Un 5, ouais, 5.
Merci, Julien. Thomas ?
Oui. C'est marrant, on n'en a pas du tout parlé avant. J'ai l'impression qu'on est tous plutôt d'accord. Alors pour moi, ce sera un 6. Déjà de base, les films de bagnole et tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Moi, tu me fous un dimanche matin devant Automoto, je fais une commotion
cérébrale.
Comme
les films de guerre.
Comme les films de guerre, comme tous les trucs de mec, quoi. Et donc du coup, moi, sur le coup, ça me vend pas vraiment du rêve. Franchement, alors, je trouve que le film, il reste plutôt mineur. Personnellement, moi, il ne m'en reste pas grand-chose. Je suis d'accord. Mais par contre, ce qui est marrant, ce qui finalement m'a le plus captivé, ça reste quand même les courses de bagnole. Parce que je trouve que cette fameuse... Ça dure quand même bien 40-45 minutes, toute cette course des 1000 milliards. Je la trouve quand même plutôt prenante, plutôt bien faite. Je trouve qu'il y a un super travail sur le son, les moteurs qui vibrent et tout ça. J'ai même regretté sur ces plans-là de ne pas les avoir vus au cinéma avec un putain de son. On voit que Michael Mann, c'est quand même un bon faiseur. Personnellement, j'ai plutôt compris là où il voulait m'emmener. Je trouve qu'il y a une vraie thématique autour de la morbidité, parce qu'il est complètement entouré de la mort en permanence, que ce soit dans sa vie personnelle, avec la perte de son fils, mais aussi les pilotes. Il a perdu des gens par le passé, dans des courses, des amis. Là, on voit clairement que les pilotes, ils jouent leur vie, quoi. À chaque fois, ils peuvent vraiment mourir à tout instant pendant ces courses. Et y compris, moi, je trouve que c'est hallucinant pendant cette course des 1000 milliards, quand tu vois qu'ils passent dans des grandes villes comme Rome et que le public, ils sont juste protégés par des bottes de foin. Hein. C'est rien du tout. Donc, il y a vraiment toute une thématique autour de la mort et autour de ce personnage qui veut fuir ses problèmes. En fait, il y a une vraie thématique de la fuite en avant, je trouve. Lui, il est fixe. Il est là finalement, à part au début où tu le vois dans sa jeunesse, mais c'est une ou deux minutes d'introduction. Mais sinon, il est là en train de parler, en train de négocier, etc. Et dans sa vie aussi, tu vois qu'il n'avance pas, qu'il est vraiment bloqué par ses propres drames. Et c'est complètement en opposition avec ce monde de la course automobile qui est complètement effréné, qui va très très vite, mais toujours lié au parfum de la mort. Je trouve qu'en effet, Lolo l'a dit avant, le personnage vraiment de Penelope Cruz est vraiment très très bien écrit. Je la trouve plutôt, elle est plutôt retors. En plus, il y a vraiment un rapport à l'argent. Elle le tient vraiment par les couilles et par l'argent.
C'est une associée, ouais, ouais, clairement.
Et donc, je trouve qu'il est vraiment bien fait parce que Michael Mann, c'est pas tout, les personnages féminins, c'est pas toujours son point fort. Bon, je reviens pas sur le personnage de la maîtresse qui est creux au possible. Ça, vraiment, pour le coup, je trouve que c'est un énorme raté. C'est donc Shailene Woodley qui le joue, mais elle a rien à jouer du tout. Et pour conclure, voilà, je trouve qu'il y a quand même des bonnes qualités dans le film. Il y a des bonnes thématiques, les courses automobiles sont bien. Mais je trouve que le film me met assez volontaire sans doute, mais me met très en retrait parce que le personnage, il est très froid, très impénétrable. Comme vous l'avez dit, moi aussi, j'ai toujours un peu du mal avec ce côté. On les Américains qui jouent des Italiens. Et encore, je trouve qu'Adam Driver, il est plus en retenue parce qu'il aime bien jouer des Italiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans House of Gucci, il y avait un peu plus de level, hein, je trouve, en termes d'accent forcé. Je trouve que là, il y va un peu plus piano. Donc voilà, donc je suis assez mitigé, donc je mets juste au-dessus de la moyenne, je mets 6.
Très bien. Alors, pour ma part, pour vous dire la vérité, je vais mettre 5, parce que pourquoi 5? Parce que je ne suis pas allé au bout du film. Donc je vais
pas... la moitié, alors je mets la moitié.
Non, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout du film. Comme a dit Lolo, il y a une heure où tu as du mal à rentrer dans le personnage, dans l'histoire, dans le truc. Donc moi, j'ai tenu uniquement parce que la course automobile me plaisait, mais effectivement, j'ai pas eu ce que je voulais et je suis certainement pas allé assez loin pour voir même la course. Donc je vais mettre 5 parce que je vais être neutre parce que je peux pas me positionner
mais
plus que ça.
Mais
juste
la première heure, l'histoire personnelle, c'est assez bateau. Hein. On a déjà vu 15 fois ce mec tiraillé entre son épouse et sa maîtresse. Hein.
Ouais, et puis ça, voilà, je suis pas rentré dans l'histoire et j'ai éteint. C'était quoi, Prime Video? Non, c'était ça. Prime, j'ai éteint et puis je suis allé faire autre chose. Donc 5 pour être gentil. Ouais. Mathieu.
Ma note c'est 6,5. Ouais, clairement.
C'est rare que ce soit toi le plus généreux.
Ouais, c'est 6,5.
Parce qu'il est amoureux de Michael
Mann. Parce qu'il aime bien Michael Mann.
Parce qu'en fait, Michael Mann, je pense très sincèrement qu'avec David Fincher, ce sont les meilleurs réalisateurs qu'il y a actuellement. Qui existent vraiment. Je dis pas que ce sont eux qui produisent les meilleurs films, c'est pas le vrai, hein. Mais en tout cas, ce sont les meilleurs réals. Le film débute déjà, je suis dans le film. Et je me dis, la réflexion que je me fais, c'est putain, je peux pas le voir au cinéma. Alors, il était dispo au cinéma, il fallait se déplacer en Suisse ou en Belgique, mais en France, effectivement, il est pas en salle. Et t'as un putain de cinémascope qui commence. En fait, c'est un film de cinéma. Le cinémascope qui s'ouvre, l'image, elle est incroyable. Tous les cadres, ils sont, putain, tu sens qu'ils sont réfléchis. Tu vois, c'est pas, je pose pas ma caméra n'importe où et je dis au mec de rentrer sur le set. Comme ça se fait beaucoup, on a tendance à croire que tout est travaillé, c'est pas vrai. Mais là, dans ce film-là, c'est le cas. Je te dis, il y a pas un plan, pas une scène, tu vois, où t'as l'impression que ça a été fait au hasard. Alors, effectivement, vous dites effectivement que les CGI sont pourris. Ils sont pourris, mais moi, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé parce que dans la fulgurance en fait de la mise en scène dans les courses, dans la course automobile, quand survient le drame, je te jure que moi, ça m'a retourné le bide. J'étais pas bien, vraiment. Et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je suis un peu avare en émotions au cinéma ces derniers temps parce qu'on suscite pas tellement non plus mes émotions au cinéma, mais là, il a fallu que chez moi, devant ma télé, je vois un accident de bagnole dont je connaissais l'histoire, alors que je suis pas du tout un féru de bagnole, j'en ai rien à foutre. C'est vrai que moi, un biopic sur Enzo Ferrari, mais alors je m'en branle. Mais là, putain, j'ai eu le bide retourné. Et ça, c'est parce qu'il y a une mise en scène qui est brillante, quoi. Mais vraiment. Alors, et il y a un effet spécial.
Tu savais que ça allait arriver? L'accident, toi, tu savais?
Ouais, je savais parce que je me souvenais, en fait, alors je sais pas comment, c'est des fois, t'as des souvenirs comme ça, je me souvenais effectivement que j'avais entendu parler de cette histoire-là, donc je savais qu'il allait se passer là. Ça, et en même temps, c'est vrai que, comme le disait Tom, le film est baigné par la tragédie. C'est en fait, t'as vraiment l'impression de lire, en fait, c'est une tragédie grecque, enfin, gréco-romaine, du coup. Mais t'as vraiment ça, ce sentiment donc que c'est baigné en fait par cette ambiance. Et chez moi, ça fonctionne. Et il y a un effet spécial qui est quand même particulièrement réussi. Enfin, je sais pas, vous l'avez même pas relevé. Ils ont réussi à coller les oreilles de Adam Driver. Le truc, ça, c'est assez brillant. Les comédiens, vous parliez des accents, effectivement, c'est insupportable. C'est moins outrancier que, effectivement, que dans House of Gucci, où il y avait Jared Leto, qui est peut-être le plus mauvais comédien du monde, qui en faisait des tonnes. Là, ça allait encore, parce que Penelope Cruz, effectivement, elle est incroyable. Enfin bon, moi, c'est une comédienne que j'aime bien. Que dire d'autre ? Ouais, sinon, franchement, je mets 6,5, non pas pour l'histoire, parce qu'effectivement, on parlait, effectivement, c'est des histoires qu'on a déjà vues. Effectivement, toutes les histoires sont toujours racontées. Hein. On a déjà tout raconté, toutes les histoires, mais c'est pas trop grave, à mon avis. Et le principe que ce soit tourné comme une tragédie, et une tragédie un peu antique, avec moi, ça fonctionne. Tu vois, pour moi, ça fonctionne, qui plus est, parce que la mise en scène est à l'avenant. Je reviens juste là sur le choix des accents. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, enfin de nombreuses années maintenant, quand tu regardais un péplum, tourné, tu vois, que ce soit Cléopâtre ou n'importe quoi, les personnages qui jouaient des Italiens, ils avaient tous un accent britannique. Tu vois, ils sortaient tous de la Shakespeare, tu vois, Royal Shakespeare Company. Et ça choquait personne. Aujourd'hui, quand tu regardes n'importe quoi, Spartacus, ils ont tous un accent anglais impeccable. Et ça choque pas, tu vois, on s'en fout. C'est quelque chose, effectivement. Soit si demain on retourne à ça, on dit voilà, on prend l'accent, tu vois, anglais, britannique ou américain, est-ce que ça vous choquerait ?
Justement, c'est ça la question. Imagine... Moi, à mon sens, j'aurais préféré presque pas d'accent.
Mais je sais pas, imagine.
Tu pars en full anglais. Et à la limite,
imagine un film coréen, toi, par exemple, tu regardes un film avec des Coréens qui est doublé en français. Alors moi, quand on parle comme ça,
ouais, non, c'est, non, mais tu, c'est impossible.
Non, mais c'est pas possible. Ah, c'est ouais. La limite.
J'aurais préféré sans accent, à la limite. Alors, t'es en anglais, je parle en anglais.
Et moi, je te parle que je suis un italien. C'est même pas un italien qui parle en français. C'est un mec qui parle en anglais, qui joue un italien. Pourquoi est-ce qu'il aurait un accent italien ? Je joue en anglais.
Ouais,
c'est
ça, exactement.
Tu joues en plus un accent que tu n'as pas vraiment parce que tu n'es pas italien, donc ton accent il est pas vrai.
Donc ça fait fake. Ça fait fake.
Ça résonne pas très très bien.
Ah non, c'est dégueulasse. Mais bon, après, comme il n'empêche, moi, j'ai bien aimé le film. J'ai bien aimé le film parce que on a rarement l'occasion, de voir un putain de film de metteur en scène. C'est
la mise en scène qui t'a apporté plus dans ce film-là.
Ah, la mise en scène, moi, je trouve, mais vraiment incroyable. Okay. Et c'est pas juste de l'esbrouf. C'est pas juste, voilà, je fais des beaux plans.
Oui, mais c'est pas n'importe qui aussi. Tu t'attendais tu le savais qui était un maître de la mise en scène. Tu t'attendais à un truc comme ça.
Bah, c'est comme quand je vais voir un film de Fincher. Quand je vais voir un film de Fincher ou de Michael Mann. J'attends ça. S'il n'y a pas ça, effectivement, je suis extrêmement déçu. Et d'accord. Là, pour le coup, je suis comblé. Alors, okay. Le reste, effectivement, m'importe peu. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un 6,5, ce qui est déjà une très bonne note, tu vois.
Mais, c'est la réalisation qui t'a plu.
Parce que le reste, effectivement, je m'en branle. Moi, les biopics, je suis un peu comme toi, ça ne m'intéresse pas. Les biopics sur Enzo Ferrari, enfin sur des bagnoles, mais alors je m'en contrefous. Mais voilà, j'aime bien.
Parce que honnêtement, l'empathie que c'est censé générer pour les personnages, parce que là, on est sur une histoire de personnages, pas vraiment. Les voitures et les courses, c'est une chose, parce qu'il y a beaucoup d'incidences par rapport à la victoire, à la défaite, et ce que tu veux. Mais est-ce que tu as vraiment beaucoup d'empathie pour les personnages, quels qu'ils soient ? Mis à part pour Penelope Cruz, qui joue bien, que tu sens qui est marquée pour cette femme qui a perdu son fils et qui en plus est remplacée. Enfin, elle, quand elle joue et quand il y a ces scènes-là, tu sens qu'il se passe quelque chose et c'est vraiment le personnage, moi, qui me. Et puis elle est forte, tu vois, à la fin, elle se laisse pas avoir. Et au moment où. Le personnage, je pense que c'est probablement. Est-ce que c'est ce qu'elle a fait vraiment ? Donc ce personnage-là, il est fort. Au moment où où t'as l'impression qu'elle se fait doubler, tu vois, il y a plein de trucs, elle fait les bonnes décisions et elle prend des choix et elle reste la femme de Ferrari et aussi. Elle détruit pas l'entreprise, elle a une vraie vision quelque part.
C'est elle le bon personnage.
Exactement,
en fait,
c'est elle qui va sauver Ferrari finalement, si tu regardes bien. Mais tout le reste autour, comme Mathieu l'a dit, ou Mike l'a dit, la concubine, bon, on s'en fout. Le gamin, on le voit pas beaucoup, mis à part qu'il fait suer tout le film pour avoir un autographe. Tu vois, on lui laisse pas énormément de place, on raconte pas vraiment l'histoire d'avant. Moi, il y a beaucoup de choses en termes d'histoire qui font que les personnages, je ne m'y intéresse pas spécifiquement. Tu vois au moment du drame, moi, j'ai plus d'empathie pour les gens qui sont sur le bord de la route que pour le mec qui est dans la voiture en train de la conduire. Quoi, qui est là depuis le tout début du film, sachant qu'il apparaît tout au début. Donc, on sait que ça va être important. Mais pourtant, j'ai aucune empathie pour ce jeune homme.
Le film, tu as dit, il est sorti quand ? Le 8 mars. Hein. Mars. Donc là, maintenant, au moment où on enregistre, il y a à peu près 2-3 semaines qui se sont écoulées. Grosso modo. Moi, je l'ai vu au moment où effectivement, il a été disponible sur Prime. Effectivement, je me souviens pas de grand chose, sauf effectivement la course de bagnole. La course de bagnole, c'est moi vrai, je la trouve ouais. dingue parce qu'effectivement, la mise en scène, elle est incroyable. Je suis vraiment dans la course. Ouais. Tu me disais, tu parlais effectivement de l'empathie pour les personnages. T'as raison, moi j'en ai pas non plus parce que je me contrefous en fait de ce qui leur arrive. Mais si je m'attarde uniquement en fait sur la réalisation, pardon, je trouve ça mais incroyable, vertigineux, tu vois, et prodigieux. Ouais. Au niveau de la mise en scène et la course finale, c'est vrai que moi, je le répète, hein, mais je suis retourné quand je vois la tragédie. Quand la tragédie survient,
oui,
c'est incroyable parce que avant qu'elle survienne, il y a effectivement toute cette course, il y a toute cette énergie, toute cette adrénaline qui participe aussi au conditionnement. Enfin, pour moi, quand la tragédie arrive, je me dis, oh, alors que
c'est
je le savais,
c'est un coup d'arrêt, quoi.
Alors que je le savais, tu vois, que ça allait se produire, et pourtant, bah, putain, ça me retourne. Je dis, merde.
Oui, puis mais j'avoue avoir résumé beaucoup, peut-être aussi JS, c'est juste vraiment cette dernière scène où tout le reste, ça m'a pas trop frappé, mais sur cette scène-là, qui était pour moi assez importante, tu vois, ça m'a choqué aussi.
Le premier crash avec le mec qui vole en l'air, t'es là, mais attends, c'est quoi cette marionnette, c'est pas possible. Et ils regardent tous comme ça. Enfin bref.
Allez, arrêtons-nous là. Ouais. Il est temps pour nous de passer à la deuxième partie de cette émission, enfin, deuxième rubrique de cette émission, les bruits de couloir. Thomas, à toi la parole pour cette deuxième rubrique. Quoi vas-tu nous causer ?
Alors aujourd'hui, je vais parler de choses vraiment pas joyeuses, mais nécessaires. On va parler Me Too. D'accord. Alors, on a parlé justement avant de Ferrari, donc qui se passe en Italie. Et je vais parler donc là de l'Italie, puisqu'il y a un film actuellement qui est en salle et qui est un film important qui s'appelle Il reste encore demain. C'est un film qui a cartonné au box-office italien. Il faut savoir qu'il a terrassé en 2023 Oppenheimer et Barbie, puisqu'il a fait plus de 5 millions d'entrées en Italie pour le cinéma italien. Et on le dit souvent, le cinéma en Italie, c'est compliqué aujourd'hui. Donc un film qui fait 5 millions, il faut savoir qu'il a intégré le top 10 de tous les temps en Italie. Donc c'est l'histoire d'un film qui se passe dans les années 40 et c'est l'histoire d'une femme qui est battue par son mari, qui est soumise aux violences des hommes, à la violence quotidienne et banalisée des hommes. Et donc c'est son histoire et celle de sa famille, de sa fille, etc. C'est un film en noir et blanc. Et pourquoi ce film, qui comme ça au demeurant n'est pas forcément un blockbuster ou un film qu'on se dit ça va ramener 5 millions, qu'est-ce qui va terrasser Barbie ou Oppenheimer ? C'est parce que ce film en fait est devenu un véritable fait de société en Italie, puisque il faut savoir que malheureusement l'actualité italienne a rattrapé la sortie du film, puisqu'au même moment un fait tragique a bousculé l'Italie et a ému l'Italie. C'est le féminicide d'une jeune étudiante qui s'appelle Giulia Cecchettin, qui a été rouée de coups de couteau, donc assassinée par son ex-petite amie. Donc son corps a été retrouvé, je crois, dans un fossé dans la péninsule de Venise. Et ce féminicide a bouleversé l'Italie. Il y a eu des manifestations partout dans le pays, et les spectateurs du coup se sont aussi rués sur le film qui était sorti il y a quelques semaines auparavant. Ils sont allés qui parlait de ce sujet-là. Pour c'était plus en fait un cri de mobilisation, et donc ils sont aussi allés voir ce film-là, puisqu'il faut savoir qu'en Italie le gouvernement n'est pas particulièrement branché MeToo, hein, c'est pas trop leur cam. Pendant des années, il y a eu Berlusconi au pouvoir. On sait très bien comment les femmes étaient vues et traitées sous son gouvernement. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas forcément arrangé. Et donc voilà, le film a placé les violences conjugales au cœur du débat public italien. Et c'est la preuve que la réalité, parfois malheureusement, peut dépasser la fiction. Donc, et ça rejoint également ce mouvement de MeToo en Italie. Ça rejoint un mouvement MeToo en France, hein, on en parlait il y a 15 jours avec le discours de Judith Godrèche. Je vais un peu revenir sur ce sujet qui a pas mal bouleversé le cinéma, le milieu du cinéma français, ce petit milieu d'entre-soi, comme on dit souvent chez nous. Puisque MeToo, c'est pas tout nouveau, hein, ça date d'il y a plusieurs années. Il y a eu déjà des personnes, mais en France, on a continué à protéger des des cinéastes, des pratiques qui étaient malheureusement banalisées. On continue à après bon, c'est toujours le débat, hein, doit-on distinguer l'homme du réalisateur, hein. On se souvient de tout le scandale qui a eu lieu quelques années au César avec Adèle Haenel qui s'était levée au moment où Roman Polanski recevait un prix de la meilleure réalisation. Et encore pour un exemple récent, hein, Woody Allen a sorti un film là au mois de septembre qui s'appelle Coup de chance, qui est une véritable purge. C'est un film qui a été fait en France parce que plus personne ne veut de lui. Mais en France, on continue à financer les films de ce type de personnage parce que on accepte, on tolère, tout le monde sait, mais on n'en parle pas. Et ce qui s'est passé, c'est que tout a commencé en décembre 2023. C'est le Figaro qui a lancé une tribune puisqu'il voulait défendre Gérard Depardieu, ce monstre sacré du cinéma français, mais qui, vous savez, est au cœur de plusieurs polémiques puisqu'il est poursuivi pour viol et agression sexuelle, donc de la part d'une actrice avec laquelle il a travaillé. Mais à ce moment-là, les langues se sont déliées et il y a plusieurs autres personnalités qui ont protesté et qui ont accusé en effet Gérard Depardieu de comportement déplacé. Mais en plus de ça, en parallèle, il y a eu un documentaire sur Complément d'enquête dans lequel Gérard Depardieu commentait. Il y avait une jeune fille qui faisait de l'équitation et il parlait du plaisir que pouvait lui procurer le canasson, les vibrations. Et donc il dit ça à la caméra. Donc c'est vraiment une image vraiment particulièrement dégueulasse de quelqu'un. En plus, voilà, aujourd'hui. Gérard Depardieu, voilà, il a un corps, il impose, il a une gueule, mais ça ne vend pas forcément du rêve. Hein. Ça fait quand même bien dégueulasse, sale. Bien sale. Et il parle d'une toute jeune fille. Donc voilà, cette tribune du Figaro qui défendait Gérard Depardieu, ça a provoqué une avalanche de contre-tribunes et ça a choqué l'opinion publique. Et en plus de ça, tu en parlais il y a 15 jours, Mike, a été déterré un documentaire de Gérard Miller de 2011 qui s'appelle Les ruses du désir. Et donc c'était un entretien avec Benoît Jacquot, donc un réalisateur plutôt célèbre de l'entre-soi français, voilà, qui fait des films. Bon, moi, personnellement, j'aime pas du tout ce réalisateur-là, ça se regarde beaucoup le nombril, il est très chiant. Mais en tout cas, dans ce documentaire-là, Benoît Jacquot assumait clairement son goût pour les très jeunes filles et il assumait le fait que le cinéma pour lui c'était une couverture qui lui permettait de profiter de façon illicite des relations sexuelles avec des mineurs.
Et Gérard Miller, il n'était pas en contre. J'ai entendu une partie. Il a jamais dit non, c'est pas bien ce que tu fais. Il a toujours abondé dans le sens de.
Oui, parce qu'il n'était pas.
Parce qu'il l'interviewait, mais il n'était pas en disant ce que tu fais, c'est mal.
Non, ouais,
parce que lui, il avait les mêmes pratiques. Parce que vu ce qu'on a appris sur Gérard Miller, qui est qui lui est aussi accusé de viol et de voilà. Mm-hmm. Je veux dire là tu dis.
Est-ce qu'il en reste qui ne le sont pas ? C'est ça la question.
Et tu dis, mais en fait, vas-y, continue.
Et donc du coup, dans cet entretien, Benoît Jacquot cite forcément Judith Godrèche, avec qui il a eu une relation sérieuse pendant plusieurs années. Mais à l'époque, Judith Godrèche, quand ils ont entamé leur relation, elle n'avait que 14 ans et lui, il devait en avoir
40,
20, 30, plus.
Ah, 30 dans 14 ans et après.
Lui, il était beaucoup, beaucoup plus âgé. Et donc, suite à tout ce déballage médiatique, Judith Godrèche a pris publiquement la parole et elle demande l'ouverture d'une commission d'enquête pour que sur les tournages, les enfants, mais aussi les jeunes femmes, soient mieux protégées de ces pratiques dégueulasses de la part de grands nababs, que ce soit des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, qui se permettent des gestes parfois juste banals, mais qui sont véritablement des agressions. Karine Viard a parlé récemment. Elle indiquait par exemple que sur le tournage de Potiche, Gérard Depardieu l'avait ploté. Mais un peu en signe d'humour, mais c'est un plotage un peu dégueulasse quand même, tu sais. Et du coup, elle lui a dit stop.
Du plotage d'humour.
Ne me touche pas, voilà. Il ne l'a pas violé, mais il l'a ploté sur un tournage, ça ne se fait pas. Et donc, que ce soit dans le milieu du cinéma ou dans d'autres. Dans d'autres strates, que ce soit dans des entreprises, etc., ça existe malheureusement, mais c'est particulièrement banalisé dans le cinéma. Il y a une véritable omerta. Donc du coup, nous espérons que ce mouvement MeToo permettra peut-être de revoir la notion de consentement. Voilà.
J'ai une question par rapport à tout ça. Quand ces choses, elles arrivent dans le cadre de scènes qui doivent être tournées, ou c'est juste sur le plateau de manière. Tu vois,
ça peut être dans les deux.
Parce que comment ils vont gérer ce truc entre je dois faire une scène à caractère sexuel et c'est dans le film et c'est pour le film. Et est-ce que c'est nécessaire ou pas après ça
bon, alors, justement, dans la tribune de Judith Godrèche, elle indique de ce qu'elle demande qu'il y ait des coordinateurs d'intimité sur les plateaux pour coacher les acteurs sur les scènes, justement, les scènes de sexe, les scènes d'amour, et pour pouvoir vraiment travailler de façon objective et professionnelle sans qu'il y ait des dérapages.
Ça, c'est déjà le cas. C'est déjà mis en place depuis deux bonnes années, au moins.
D'accord, oui.
Parce que, est-ce que la question se pose.
Mais ce n'est pas imposé. C'est pas imposé aux productions. Alors, c'est si tu veux le mettre en place ou si c'est demandé par l'actrice ou l'acteur.
Mais si c'est, on sait bien que si c'est pas fait, on peut supposément, tu vois, attaquer en fait la prod. Okay. Donc il y a tout un à le faire. Moi j'ai aussi une question. On peut que être, tu vois, s'offusquer de toutes ces pratiques. C'est scandaleux. Évidemment, enfin il y a pas, on peut pas minimiser ça, pas du tout. Mais là où je suis toujours surpris, c'est MeToo, depuis toutes ces révélations qui sont ignobles, on est en train du coup de se dire ouais finalement. Répulsion, Chinatown, Polanski, c'était pas si bien que ça. Finalement, Manhattan et Annie Hall de Woody Allen, c'est pas vraiment des bons films. Moi, en fait, c'est ça qui me surprend toujours, c'est que maintenant, on se retrouve dans une position où, pour affirmer en fait qu'on est dans le camp des gentils, il faut absolument dire que tout ce qu'ils ont fait en tant qu'artiste, c'était de la merde. Et on a beaucoup ça aussi qui revient. Donc, je suis aussi assez surpris et assez dubitatif. En fait, c'est sur ces partis pris maintenant. Artistique, rétrospectif, tu vois.
Et moi, là, je te rejoins sur ce truc-là, c'est-à-dire que le fait d'avoir des révélations sur certains personnages entache leur carrière et le travail qu'ils ont fait, pas par la qualité de ce que ça a pu être cinématographiquement parlant, tu vois, mais le fait que, par principe, tu te dois de ne plus regarder leurs œuvres.
Par posture.
Tu vois. Alors après, comme tu dis, de venir
par,
dire
par
d'un seul
imposture.
Coup.
Imposture. Ça devient une imposture, en fait, je trouve.
Ouais,
quand à la Cinémathèque, ils ont fait il y a quelques années une rétrospective sur Polanski, effectivement, il y avait des manifestations parce qu'on n'avait pas le droit de faire une rétrospective à Cinémathèque sur Polanski. Parce que c'était ignoble par rapport à ce qu'il a pu ou ce qu'il a commis ou ce qu'il a affirmé, tu vois, comme quoi c'était une saloperie. Si la Cinémathèque ne fait pas se refuse à faire, tu vois, une rétrospective sur Polanski, moi je trouve que c'est une erreur professionnelle, c'est une faute professionnelle. Parce que Polanski, on peut en penser ce qu'on veut. Moi aussi, je trouve que ce mec-là,
il est puant,
clairement. Mais je peux pas maintenant dire parce qu'il est puant que ses films sont merdiques. Je veux dire, on a tous pendant des années, considérer que ouais, des films comme Répulsion, comme Chinatown, même comme Le Bal des Vampires sont des super films. Et là, aujourd'hui, on dit ouais, mais non, finalement, non. Il faudrait absolument, tu vois, affirmer, tu vois, son opposition en disant que c'était de la merde. Woody Allen, pendant les années 60-70, surtout les années 70, il a fait de très grands films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Mais aujourd'hui, on se dit ouais, mais non, bah, finalement, c'était peut-être pas si bon que ça.
Non, mais c'est pas tant de dire, effectivement, de dire que c'était pas bon, alors qu'à une époque, on a dit que c'était bon parce que, pour X raisons, parce que c'est analysé de telle manière, cinématographiquement parlant, ce sont de belles œuvres bien faites. Tu peux pas empêcher qu'à un moment donné tu te dis, ben, vu ce qu'on sait maintenant, je remets pas en question la qualité de l'œuvre, mais comme elles émanent d'une personne qui a maintenant cette aura là, on peut plus on n'y fera plus référence. Okay. Tu vois, c'est comme, je te donne un exemple.
J'ai un contre-exemple, Voltaire, on arrête de lire Voltaire antisémite. Est-ce qu'on arrête de lire Voltaire aujourd'hui? On étudie encore Voltaire à l'école, ou on considère même Voltaire comme quelqu'un qui défend la liberté d'expression, qui t'aide à penser le monde, tu vois, et face à des contradictions. Pourtant, Voltaire, voilà, a eu des propos antisémites. Alors, est-ce qu'on pourrait dire oui, mais c'était lié à l'époque? D'accord, mais si on met tout, on contextualise tout à une époque, alors, mais du coup, on peut tout pardonner. Mais à un moment donné, il faut savoir comment on se positionne. Est-ce qu'on arrête de lire Hergé? Est-ce qu'on lit plus Tintin? Tu vois, tout ça.
On regarde plus Disney.
Non, mais on peut tout arrêter. Mais non, mais vraiment. Donc moi, j'affirme effectivement que ces mecs-là sont puants et que peut-être si maintenant on estime qu'ils n'ont plus à toucher de subventions pour faire des films, pour faire peu importe les œuvres, des œuvres artistiques, eh ben c'est très bien. Ok, ben ils sont punis parce qu'ils sont coupables. Tu vois, face à l'opinion publique, face à l'État, face à n'importe qui, ils sont coupables. Mais on peut pas rétrospectivement dire que bah non, c'était pas bien. en fait, leurs films ou leurs leur bouquins.
Après, juste la, tout ce qui se passe actuellement, notamment par rapport à ce que Judith Godrèche, qui est devenue vraiment une genre d'ambassadrice du mouvement MeToo en France, il n'est absolument pas question, enfin, en tout cas dans ce qu'elle demande, de complètement effacer, de totalement cancel la filmographie d'un réalisateur ou autre. Elle, c'est vraiment sur le fait de protéger sur les tournages, de cadrer, pour éviter ce genre de dérive-là. Mmh. On se souvient également, là, il y a eu récemment l'adaptation du livre de Vanessa Springora, donc Le Consentement, dont on a beaucoup parlé, donc, où dans les années 90 encore, il y avait Jean-Pierre Matzneff, qui était un littéraire très connu, Gabriel Matzneff, qui était un littéraire très connu, et qui, sur un plateau de télévision, disait clairement qu'il aimait beaucoup les très très jeunes filles, et que parce que les femmes de son âge ne l'intéressaient pas, etc., et qui assumait à la télévision d'avoir des relations poussées avec des très jeunes filles. Ça c'est choquant.
Et Claude François aussi, c'est pareil. Claude François qui dit qu'une femme après 18 ans, ça a plus de saveur, tu vois. Enfin, et on écoute quand même ces musiques pendant les mariages, tu vois. C'est la même chose.
Gabriel Matzneff, c'est encore plus troublant, parce qu'en fait, ça assoit vraiment cette omerta, et au-delà même de l'omerta, c'est l'intelligentsia parisienne qui trouvait quelque chose de romantique. Il y a quelque chose de romantique, c'est dans le fait que l'artiste va chercher en fait son inspiration dans une muse, qui plus est si cette muse est une enfant, parce que ça participait effectivement au côté un peu poète, un peu romantique, tu vois, de l'écrivain. Et effectivement, il allait à l'apostrophe pour se vanter de ces histoires-là, que ce soit les autres personnes qui étaient invitées, personne ne s'en offusquait, sauf il y a une dame qui s'en était offusquée, une autrice québécoise qui a dit que c'était un salopard, et toute la presse était tombée sur cette dame, pour la clasher. Aujourd'hui, on dit oui, non, mais effectivement, elle avait raison. Rétrospectivement, évidemment, elle avait raison. Mais ce mec-là, alors il n'était pas un grand vendeur, hein, il ne vendait pas beaucoup de bouquins, mais il avait la carte parce qu'il était considéré comme un auteur important. Et voilà, mais est-ce que ces bouquins, moi je ne les ai pas lus, ces bouquins, mais en même temps je m'en branle un peu. Est-ce que c'est de la merde? Ça, je ne sais pas. Mais c'est on parle souvent, effectivement, tu l'as relevé aussi, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? Moi, je pense qu'il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste. Parce que si un artiste, tu vois, fait telle et telle œuvre, c'est parce que il est tel qu'il est. Donc, effectivement, est-ce que moi, quand je regarde Manhattan, de Woody Allen, est-ce que je peux y percevoir, effectivement, une certaine inclinaison pour les jeunes femmes? Oui. Oui, quand tu regardes Manhattan, oui, effectivement, tu te dis, il y a un certain tropisme, en fait, pour certaines jeunes femmes, évidemment. Est-ce que ça en fait un mauvais film? Je ne crois pas. Au contraire, je trouve même que c'est un très grand film. Voilà.
Merci messieurs. Mathieu, on va te laisser la parole parce que c'est l'heure de la rubrique Lumière sur. Et Lumière sur une œuvre cinématographique majeure. Mathieu, à toi la parole. De quoi tu vas nous parler?
Alors c'est bien parce que du coup, en fait, on va rester en Italie et on va parler aussi de Dario Argento. Donc quand on parle de Dario, on parle aussi de sa fille Asia. Donc ça tombe bien parce que ça fait encore un pont aussi avec MeToo. Donc c'est le syndrome de Stendhal. On a déjà parlé d'Argento, on avait fait une émission consacrée à Suspiria, on était tous d'accord que c'est un très grand film, on a fait une émission brillante, hein, comme à chaque fois, donc il faut la réécouter. Et en fait, avec Argento, la question se pose toujours, c'est quel est son dernier film, son dernier bon film. Donc il y en a qui pensent que c'est Ténèbres en 82, il y en a qui sont un petit peu plus, on va dire un peu plus gentils, qui vont penser que c'est peut-être Phénoména, qui sort un peu plus tard. Moi, je pense que c'est Le Syndrome de Stendhal qui est son dernier bon film. Argento a une période américaine. Il est parti tourner aux États-Unis, Deux yeux maléfiques, qu'il a co-réalisé avec son pote Romero, parce qu'on a déjà parlé, ils sont très potes, hein, il a même fait la version européenne de Zombie. Il tourne ça en 90 et en 93, il tourne Trauma, aussi donc aux États-Unis avec Asia. C'est des films que moi j'aime bien, mais on va pas se mentir, c'est pas des bons films. Même Deux yeux maléfiques, qui sont en fait deux adaptations d'Edgar Allan Poe, c'est pas très bon, mais moi je trouve toujours un peu de plaisir à regarder ces films-là. Et alors qu'il est à New York, il va dans une librairie italienne en 57e rue et il tombe sur un article qui est consacré à un essai écrit par la psychiatre Graziella Magrini qui parle en fait du trouble psychique de Stendhal, du syndrome de Stendhal. Donc c'est quelque chose je pense que tout le monde connaît. Nous, Mike et moi, nous avons eu la chance de partir ensemble à Florence et c'est là où, en visitant la basilique Santa Croce, que l'ami Stendhal a éprouvé en fait une espèce de crise, tu vois, d'apoplexie, tu vois, il était submergé en fait par toutes les œuvres d'art qu'il voyait et il en est tombé, tu vois, d'inanition.
Et un malaise.
Voilà. Et nous, quand on était à Florence,
malaise culturel.
C'est ça. Nous, quand on était à Florence, on a un peu vécu ça, mais c'était plutôt le Chianti, ouais. Mais qui a fait effet.
Mais, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, il fait
l'Aperol Spritz.
L'Aperol Spritz. Et elle avait écrit donc du coup un essai qui retrace ça au travers de personnages célèbres qui ont vécu ce même sentiment, ce même syndrome. Dont il y a Giorgio de Chirico qui vit la même chose face au monument à Dante à Santa Croce. Et c'est pourquoi je parle de Giorgio de Chirico, c'est donc le grand peintre qui a aussi beaucoup inspiré Argento. On avait parlé dans Suspiria parce qu'il y a des plans, c'est tiré clairement de ses œuvres picturales. Et l'ami en fait Argento, Dario, ben il se rend compte que lui-même, il ne le savait pas, il avait éprouvé la même chose quand il a visité le Parthénon à l'âge de 14 ans. Il était aussi tombé comme ça, suffocant par la beauté en fait des œuvres qu'il voit. Et donc il décide de faire un film. Alors comme on est chez Dario, on sera pas tellement dans, c'est pas vraiment un giallo. On n'est pas non plus dans la fibre fantastique, mais il y a un petit peu de tout ça. Et il va prendre comme prétexte en fait une enquête de police. Donc c'est Razia Argento qui tient le rôle. Il y a un tueur psychopathe évidemment qui tue et qui viole des nanas. Et elle va mener l'enquête. Et quand le film débute, je pense que c'est peut-être une des meilleures introductions d'un film d'Argento. Elle se rend au musée des Offices à la recherche en fait du tueur. Nous on le sait pas à ce moment-là. Mais du coup elle déambule au milieu des œuvres et elle cherche quelque chose. Et là, on comprend qu'elle aussi, elle commence à suffoquer, elle commence à avoir des troubles de la vision ou quoi. Et elle va même plonger littéralement dans une peinture qui est la chute d'Icare de Bruegel l'Ancien. Bon, pour le coup, ce tableau ne se trouve même pas au musée des Offices puisqu'il se trouve à Bruxelles. Et elle va se retrouver plongée là-dedans. Et après, elle va faire effectivement un malaise. Et suite à ce malaise, elle va être sauvée, elle va être aidée par justement le tueur qu'elle suit et qu'elle essaye d'arrêter. Et en fait, c'est là qu'on comprend en fait toute la démarche du film, c'est que Asia, qui interprète donc du coup cette flic, son évolution en tant que personnage va se faire par la transmission aussi du mal. Il y a les œuvres qui annoncent les événements à venir, les différents tableaux qu'elle voit, elle va s'en imprégner et ça va être aussi comme à un moment donné, elle se retrouve dans une chambre d'hôtel où elle voit un tableau, la ronde de nuit de Rembrandt. C'est littéralement, le tableau va être un accès à l'intériorité mémorielle d'Anna, un espace-temps métaphysique. Elle va traverser cette œuvre-là, elle va se retrouver non plus à Florence mais à Rome sur une scène de crime. Et les tableaux en fait vont servir de pont, les œuvres d'art vont servir de pont. D'ailleurs, le film débute en fait avec une frise. Sur le générique, tu as une frise de 42 tableaux. Donc chaque bande de photogrammes, est une œuvre, une peinture célèbre et qui annonce en fait même des séquences à venir. Donc c'est très réfléchi. Bon, on sait que Argento est féru d'art et en fait c'est une œuvre d'art. Tu vois, mais vraiment déjà Florence est une ville musée et lui il en fait ce film-là pareil. Tu as des œuvres d'art partout. Tu es submergé en fait par toutes ces beautés et ça participe en fait à l'évolution effectivement du personnage qui elle-même va subir, bon, je spoil forcément, mais elle va subir le viol, elle va être violée par le tueur psychopathe qu'elle poursuit, et elle va exorciser son viol en faisant des peintures autour de la variation du cri de Munch. Ça, le cri là, qu'on connaît tous, hein, donc le film de Wes Craven, comment il s'appelle ?
Scream
qui reprend ça, bref. Et en fait, toutes ces œuvres-là, sa peinture va lui servir d'exutoire. Elle va même changer d'apparence. Son look va refléter en fait sa métamorphose. D'abord, elle a les cheveux longs, elle est innocente, un peu candide. On dirait une Madone au début du film, tu vois. Elle est magnifique. Puis elle va se couper les cheveux. Et elle va avoir une attitude très masculine. Elle va même, en fait, quand à un moment elle a cette attitude masculine, elle va mimer, un viol, elle va violer, tu vois, un mec. Il y a un mec, un de ses collègues qui va la voir pour prendre de ses nouvelles. Elle va le plaquer. D'abord, elle va lui serrer la gorge comme si elle voulait le violenter. Elle va le retourner. Elle va simuler en fait comme si elle essayait de le sodomiser. Tu vois. Et donc, en fait, elle se transforme. Et après, elle va porter une perruque blonde. Donc là, on est même dans une espèce de variation un peu, tu vois, hitchcockienne, où elle va devenir en fait la tueuse parce qu'entre temps, elle avait réussi à le capturer. Ce méchant-là. Et en fait, c'est tout le travail d'Argento qui est un peu similaire à ce que faisait Carpenter, c'est la transmission du mal. Le mal se transmet et le mal ne meurt pas. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un film d'Argento que je trouve passionnant. Surtout, en plus, il retrouve notre ami Ennio Morricone à la musique, donc à qui il n'avait plus travaillé depuis la trilogie Animal, donc ses premiers films, ses premiers giallo, avec une qui compose une forme de ritournelle. Il y a une musique qui revient constamment comme ça. Et alors, j'y connais très peu de choses, moi, en musique, hein, mais a priori, qui est comme un palindrome. Donc cette ritournelle, en fait, peut être jouée dans les deux sens. Et en fait, tout, en fait, dans le film, a des résonances, en fait, que ce soit d'un sens ou d'un autre, il y a des résonances, en fait. Il y a des résonances entre les personnages, il y a des résonances entre les œuvres. Tout peut se changer de, tu vois, de se modifier, changer de sens et de compréhension. C'est un film que je trouve passionnant. Comme tous ces films en fait italiens encore juste là jusqu'en 80, donc dans les années 90, en tant que spectateur, on peut trouver des fois c'est un peu kitsch
visuellement, si tu veux dire, c'est genre même comme dans Suspiria, c'est les couleurs dans tous les sens.
Ouais, c'est toujours très très riche au niveau des couleurs. Il y a un peu un aspect qu'on pourrait trouver aujourd'hui plus vieillot encore que dans Suspiria, parce que Suspiria qui est très marqué de son époque, mais les années 90 pour certaines formes en fait, tu vois. Il y a un certain sens visuel qui fait très daté, même un peu ringard. Et il y a des moments où on pourrait trouver que c'est un peu kitsch. Moi, je trouve ça assez fabuleux. La séquence, sans déconner, d'introduction, elle est incroyable. La mise en scène, elle est dingue. Et tout ça sans dialogue. Franchement, tu accompagnes Asia au musée des Offices, au milieu de ses œuvres. Tu comprends, en fait, son trouble. Tu comprends tous les tenants et aboutissants du film. Avec simplement cette scène d'introduction. C'est vraiment, à mon sens, peut-être le dernier grand film de Dario Argento.
Merci Mathieu pour ce partage, cette découverte pour certains. Il est temps pour nous de passer à la rubrique coup de cœur, une œuvre à faire découvrir, à mettre en lumière. À qui je donne la parole ?
Ah bah écoute, on va s'en occuper.
C'est notre moment, Julien, c'est notre
Allez.
Moment.
Allez-y, on vous écoute.
On va vous parler. Regarde, je vais même diffuser une petite vidéo en parallèle pour que vous sachiez de quoi on parle.
Helldiver. Helldiver.
Ouais. Alors, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Helldivers 2. Pourquoi 2 ? Parce qu'il y a eu un 1 avant.
On avait parlé d'ailleurs.
On avait parlé de ça.
Ah ouais, on l'avait fait en reco.
Incroyable.
À l'époque, on l'avait fait suite à un film qu'on avait traité d'ailleurs. J'imagine parler.
Starship Troopers, forcément.
Voilà, d'accord.
Évidemment, okay. Vous le savez, donc vous vous souvenez très bien ce qu'on avait dit à l'époque.
Bien sûr.
Interroge-nous après l'émission.
Et du coup, donc c'est la suite du premier opus développé par les Suédois de Arrowhead. Une petite équipe, hein, sans prétention, puisque le premier jeu n'avait pas vocation à être joué par des millions de gens. Et là, ils ont été méga surpris parce que, du coup, le jeu est édité par Sony, ce qui fait beaucoup de différence parce que, du coup, Sony a une portée marketing qui est très différente. Donc, c'est un jeu qui est jouable sur PC et sur PlayStation 5.
Xbox aussi maintenant, non ?
Non, puisque c'est une exclue Sony.
Oui, c'est
du coup, voilà, donc c'est cantonné encore. Bah, oui, c'est dur. Et du coup, ils s'attendaient à en vendre 300 000 et ils en sont à 10 millions. Donc, il y a eu vraiment un engouement assez incroyable sur ce jeu. Pourquoi un engouement incroyable ? Parce que en fait, le but du jeu, c'est de partir donc c'est jouable en coopération à plusieurs, en escouade de 4 joueurs, où vous allez être balancé sur des planètes. Donc là, pour l'instant, on a 2 factions ennemies. Donc on a les insectes, les terminides, qui sont un peu comme dans Starship Troopers, je sais plus comment ils s'appellent. Les arachnides. Oui, voilà. Donc c'est exactement le même principe. Vous allez débarquer sur cette planète et vous avez c'est des missions assez courtes, hein, c'est de 15 à 40 minutes. Vous avez des objectifs à atteindre. Et du coup, vous allez devoir effacer des vagues d'ennemis qui se ruent sur vous. Donc vous êtes tout le temps un peu dans la course à choper les objectifs, à réussir, tout en éliminant les ennemis qui arrivent sur vous. Et la petite originalité du jeu, c'est que vous avez accès à des stratagèmes. C'est-à-dire que vous êtes envoyé sur cette planète par votre vaisseau mère, si vous voulez. Et le stratagème, en fait, c'est vous appuyez sur un bouton en partie, vous allez devoir faire une petite combinaison de touches multidirectionnelles pour invoquer un pouvoir, invoquer une tourelle qui va vous défendre, demander un appui balistique de l'espace. Enfin voilà, c'est très diégétique comme jeu. Tout se fait un peu comme ça, dans l'urgence. C'est-à-dire que vous n'avez jamais le temps de vous poser, vous êtes tout le temps en train de courir, vous battre, vous invoquer vos défenses militaires pour vous aider, etc. Donc c'est un rythme ultra soutenu. C'est beau à jouer et c'est extrêmement fun en coopération puisque ça nécessite de tout le temps communiquer parce que c'est aussi un jeu
qui est
difficile.
Quoi.
Parce que voilà, si vous tirez sur votre pote, vous allez le tuer.
Si on fait péter une bombe sur notre pote, il va mourir.
Voilà, donc il faut toujours communiquer sur bah, moi, je couvre le flanc droit pour nous défendre de cette manière. Je vais utiliser cette arme-là pour que les autres soient au courant et qu'il y ait une forme de vraie coordination. Donc c'est vraiment c'est un jeu qui est très, très, très.
L'esthétisme est beau, hein, on dirait vraiment un film de cinéma.
Et du coup, bah, les influences, on est clairement sur du Starship Troopers parce qu'en plus, il y a ce côté on défend la démocratie.
La super Terre.
Donc en fait, c'est clairement inspiré par Starship Troopers dans ce côté un peu satire. Mais il y a aussi du Terminator parce qu'il y a des planètes qui sont. Voilà.
Les influences SF de toute notre génération, quoi.
Voilà. Et du coup, ça se joue très bien et c'est.
Tu peux invoquer un méca, c'est-à-dire un robot dans lequel tu vas entrer. Et puis du coup, là, on est vraiment dans des influences, que ce soit Robocop, le premier Robocop, le gros méca. Pas trop Transformers, parce que là, on n'est pas dans quelque chose de vivant, c'est quelque chose que tu utilises. Mais
Parce que tu peux rentrer dans Goldorak et.
Tu peux sortir, puis rentrer. En fait, ouais, là où tu dis, mais c'est vrai qu'on est toute une génération aussi à avoir vu beaucoup d'animés japonais où les mechas sont très mis en avant. Bon, après, il y a des fois, c'est un peu niche, parce qu'à la télé, on n'en a peut-être pas trop eu. Mais forcément, beaucoup ont baigné là-dedans. Après, là, le pari, c'est-à-dire le premier opus avait déjà. Tout ça, ces mécaniques étaient déjà là.
Mais c'était une vue dessus.
Par contre, la vue était différente, elle était isométrique et le rendu visuel était moins beau, forcément. Et le pari qu'ils ont fait, c'était de passer ça à la troisième, voire première personne quand tu veux, c'est-à-dire au-dessus de l'épaule du joueur, bah, comme vous l'avez vu là, ou alors directement, tu peux aussi passer en vue où tu vois comme si tu tenais l'arme dans tes mains. Et du coup, bah, comme vous le voyez aussi, les monstres, en tout cas les insectes sont extrêmement bien faits. Les mécaniques, elles sont aussi très fluides de mouvement. Et en plus de ça, ça va générer des situations très drôles parce qu'il se passe des trucs. Et au final, le fait de mourir, de tuer, de faire des erreurs, ça devient quelque chose de. Ça fait partie du jeu. Et en même temps de la satire, c'est-à-dire que tu es expendable, c'est-à-dire que tu es de la chair à canon.
Et tu as combien de vies?
Alors, tu as le droit, par équipe, à un certain nombre d'appels d'un renfort. Et par exemple, tu peux avoir, à chaque fois qu'un autre personnage arrive, donc tu vas de nouveau pouvoir appeler tes stratagèmes, c'est-à-dire les équipements dont tu as besoin, mais ton personnage, il va changer de voix. Ce qui montre bien que c'est pas toujours le même personnage qui descend, c'est un autre, on s'en fout.
C'est de la chair à canon.
Il change de voix, c'est-à-dire que, alors j'essaye de comprendre, si toi tu joues dans ton salon, lui il joue dans son bureau. Dans des villes différentes, mais vous entendez.
Non, mais nous on se parle, mais le personnage quand il arrive.
Mais quelle voix, en fait, du coup.
J'explique. Nous on se parle entre nous sur des chats vocaux.
Oui, ça je sais, mais c'est vos voix à vous.
Ça c'est nos voix à nous.
D'accord.
Mais le personnage dans le jeu, de temps en temps, il parle.
Ah,
tu vois, du style, il va dire par exemple.
Je comprends mieux, passe-moi le sel.
Quand tu non mais ça va être des choses aussi pareil, c'est très très drôle. Par exemple, quand tu prends ta mitraillette et que tu tires, si tu dépasses un certain temps de tir continu, ton personnage il va se mettre à hurler, faire ah bouffez là ma démocratie, tu vois, un truc comme ça. C'est ça, c'est très drôle, tu vois.
Je l'achète, il est où?
Mais c'est ça, c'est qu'il a en plus, il a ce côté extrêmement extrêmement satirique et du coup drôle. Et
il faut te faire comprendre que c'est bien, tu n'incarnes pas tout le temps le même personnage.
Ah ouais.
Dès que tu meurs, le
c'est un renfort qui arrive, c'est et tu prends renfort, le rôle
ça.
De ce...
Et ça se rattache, disons, à toute le lore du jeu qui est mis derrière. Et l'intelligence qu'ils ont eue aussi, en plus du premier, on en avait parlé, et il manquait juste d'une chose, c'était une sorte de but, si tu veux, à atteindre. Il y a une finalité, et là, il y a un gars... j'ai malheureusement oublié son nom, mais
Joël,
ouais, voilà, qui est un peu maître du jeu, c'est-à-dire il va créer une histoire, il écrit une histoire et il met un contexte, et en plus de ça, il y a des choses qui vont être implémentées dans le jeu qui vont correspondre à l'histoire que lui il invente au fur et à mesure.
D'accord. Parce que en fait, tu lances une mission en te lançant sur une planète parce que tu as des secteurs à défendre. Sur la planète, parce que les secteurs sont censés être pris par les différentes races que tu combats. Et en gros, à chaque fois que les joueurs gagnent une partie, tu fais avancer un peu le pourcentage
de reconquête.
Donc en gros, ça pousse les joueurs aussi à se concentrer sur certains secteurs pour avoir... Il y a aussi une dimension un peu,
géopolitique, stratégique, militaire. Le monde est représenté de manière concentrique, où la super-terre est au milieu, et toi, tu es entouré de factions menaçantes, on va dire. que du coup tu te dois de combattre,
que tu dois repousser. Voilà, donc okay. C'est un peu aussi le côté qui fait que tu rejoues, que tu qui te fait un peu le
ça donne
côté
envie
reviens-y.
Oui, tu t'ennuies pas quoi.
Bah le ouais, il est extrêmement fun à jouer, il est alors les mecs travaillent fort dessus parce qu'il y a tout, là ça fait combien de temps maintenant qu'il est sorti, un mois et demi peut-être
ouais,
au moment où on enregistre.
8 février j'ai vu.
Peut-être voilà. Un peu plus, alors on va dire deux mois.
Ça, 8 février, ouais.
Deux bons mois. Et les devs sont assez proches de la commu qui donne des retours.
Et pour finir, combien il vaut ? Pour les gens
euros,
qui veulent 39€ sur Internet.
Steam,
sur
PC, Steam, PC okay. Et PlayStation 5. Voilà.
Donc,
voilà, on conseille hein, ça, tout le monde en parle.
Et ça joue ouais, à Google.
Bon, 35€ pour s'éclater, ça va.
Bah, nous, on en est à plusieurs.
Je sais pas, moi j'ai déjà mis 150 heures dedans, je crois.
Voilà, c'est rentable.
Putain. Eh ben,
ouais, non,
je sais pas comment on fait, mais d'accord. 150 heures.
Quand vous êtes tous au lit, moi je suis en train de jouer.
D'accord, ok. Ouf, vache. Ils sont rentabilisés les 35 euros là, c'est bon.
C'est sûr que si je passais ces heures à faire autre chose, peut-être que je gagnerais de l'argent, mais bon, voilà, c'est pas le problème.
C'est pas grave, t'as un métier à côté qui te permet de faire ça. Donc,
et c'est pour ça, moi, ces jeux me fascinent toujours. Et vraiment, quand vous en parlez, là on voit les images, ça fait super envie. Mais
t'as pas envie de mettre le doigt dedans, quoi.
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que si moi je commence à jouer à ça, alors c'est fini, je bookine plus, je regarde plus de films,
c'est
parce
ça.
Que c'est ça.
Tu parles plus à ta meuf.
C'est hyper chronophage, tu vois.
C'est très chronophage, mais c'est très addictif et tu rigoles bien quand même.
Parce que c'est voilà. Que nous, c'est aussi une occasion, comme dit, comme il est très axé sur la coop,
de se retrouver autour d'un moment.
Voilà. Moi, j'y joue quand ils sont là, donc on joue entre frères avec deux trois potes qu'on retrouve régulièrement. Donc il y a quand même une notion de
camaraderie.
Ouais, de camaraderie, de convivialité, et puis voilà, on se marre bien.
Eh bien, merci messieurs, merci d'avoir partagé ce coup de cœur avec nous. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Mathieu pour ce focus sur ce beau film, le drame de Stendhal.
Le syndrome.
C'est un drame en soi.
Mais ça va mieux, il s'en est sorti.
Et merci encore à Thomas pour ces bruits de couloir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite. Bye bye.
Ciao.
Ciao.